Bonjour, c'est Pierre pour Les Dodins de Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 7 dédié aux pervers narcissiques. Cette saison 7 est un Q&A, une question and answer. Des questions-réponses, tout simplement, qui ont eu lieu entre vous et moi, entre moi et vous, entre nous, sur Instagram, suite aux 300 premiers épisodes, aux 6 premières saisons de Les Doigts dans le Miel, dans le but d'aller explorer les sujets que vous auriez aimé aborder. Le premier, le numéro 1, aussi étrange que ce soit, c'est pas un sujet très drôle, c'est pas un sujet très rigolo, c'est le sujet des pervers narcissiques. D'une part, c'est l'épisode le plus écouté, alors que ce n'est pas spécialement celui dont je suis le plus fier parmi les 300 premiers épisodes de Les Doigts dans le Miel. Il est 3-4 fois plus écouté que celui qui arrive en deuxième place. Et c'est également le premier sujet qui vous tient à cœur, visiblement, dans les questions et réponses qu'on a pu échanger sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel. Et c'est pourquoi nous sommes en ce moment en train d'explorer les mécanismes qui font que nous tissons notre propre toile quasiment avec les ingrédients du pervers narcissique, parce que en ce moment, nous sommes en train de faire décanter le processus qui nous amène à être pris au piège et sous l'emprise du pervers narcissique. En l'occurrence, et oui, ce n'est pas uniquement le point de vue du pervers narcissique. Pour le coup, je vous partage également deux expériences vécues. Et ça m'a pris du temps. Au total, 6 années. C'est beaucoup de temps, ça. Alors, on apprend des choses pendant ces moments-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez déjà quelques retours qui font que ça vous parle, ça vous touche, ça vous évoque des souvenirs, ça vous évoque du vécu. C'est pas toujours évident de savoir à quel point on a affaire à un pervers narcissique ou pas, parce qu'en réalité, le comportement ou bien le côté descriptif, technique d'un pervers narcissique, s'il est très clair quand on a affaire à lui, quand on ne sait pas à qui on a affaire, ça devient difficile de distinguer les frontières entre c'en est un, c'en est pas un, etc., etc. Donc, en ce moment, on se retrouve à avoir adopté une approche qui est celle de la bestialité, faire face à nos contradictions. C'est-à-dire, c'est un peu comme le yin et le yang. Il y a un côté noir, un côté blanc. Bien. C'est la dichotomie du bien et du mal. C'est la séparation en deux grands espaces, le jour, la nuit. Mais il y a quoi entre les deux? Il y a l'aurore, il y a l'aube, il y a le coucher du soleil. Il y a tout un tas de nuances qui viennent faire se fondre les deux environnements. Il y a une complémentarité d'existence entre les deux. Il y a, comme des pièces de puzzle, deux morceaux qui s'emboîtent à un moment et qui correspondent ou qui ne correspondent pas, mais qui s'emboîtent. En l'occurrence, il y a une responsabilité comportementale de la personne qui a affaire à un pervers narcissique, et ça, on l'oublie. Seulement, on a tendance à rejeter la faute, du coup, sur l'autre personne. « Ah, c'est lui le méchant !» Bah oui, mais... Et toi? T'as fait quoi? T'as fait quoi pour ne pas y avoir affaire? T'as fait quoi pour y avoir affaire? Faut pas oublier de poser ces questions. Quand on parle d'un sujet, on a tendance à occulter son opposé. Et son opposé est complémentaire. Parce que c'est pas paradoxal, c'est d'une logique imparable. Dites-moi que quelque chose existe, et je peux vous dire non. Que son opposé existe également. L'exemple des couleurs est très simple, le blanc et le noir. L'exemple du jour et de la nuit est très simple. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas. Il y a forcément des contre-exemples par défaut. Mais ne serait-ce que ça, c'est un bon exemple de ce que je veux dire. Il y a dans la vie des pervers narcissiques qui sont des fouteurs de zone, disons-le comme ça. Et il y a également les victimes des pervers narcissiques qui ne se rendent pas compte qu'à leur manière aussi, ce sont des fouteurs de zone. Pas forcément pour les autres, d'abord pour eux-mêmes. En réalité, il y a une grosse problématique qui fait que quelqu'un, à un moment donné, va avoir un déficit émotionnel, physique, mental, spirituel. Ça, c'était les quatre composantes d'une symbiose collective, et je vous invite à écouter l'épisode 257. Ces quatre composantes, elles font que si elles ne sont pas bien équilibrées chez nous, si elles affectent notre self-esteem, si elles affectent la valeur personnelle que l'on s'accorde, eh bien, on peut se retrouver pris au piège parce qu'on va chercher à compenser ça par une mécanique comportementale, autodestructrice, un peu comme c'était l'exemple que j'avais beaucoup employé dans l'épisode précédent, un peu comme un moustique voudrait se rapprocher de la lumière et quitte à se griller les ailes. Voilà, c'est Icare qui se rend compte à un moment que le soleil est à portée de main, mais qu'il est monté tellement haut qu'en réalité ses ailes en cire fondent et qu'il chute. Eh bien là, la chute, elle se fait dans les bras d'un pervers narcissique. Autant dire que vous êtes bien rattrapé, qu'on va bien prendre soin de vous. Après, l'appât du roi. L'appât du roi, c'est un peu comme ce poisson qui vit en eau sombre. Il y a une petite lumière qui se balade, puis le poisson, il voit la lumière et il se dit « Go, go, go ! Je vais la manger, cette lumière, j'ai faim !» Et en réalité, la lumière, c'est l'appât d'un poisson plus gros qui est caché dans le noir et qui finit par manger l'autre. L'appât du roi, c'est un peu cette histoire de lumière et de moustique. Les jeux de cour, ensuite, c'est le fait de se rendre compte que, en tant que poisson agité par cette petite lumière dans la pénombre des fonds océaniques, il y a d'autres poissons. Que ces autres poissons, ils forment différents types de cercles autour de cette lumière. Peut-être que certains ont déjà essayé de la goûter. Peut-être que certains n'osent pas trop, mais ils se disent, on sait jamais, je vais rester à côté. Eh bien, les jeux de cour, c'est cette idée que on se fasse voir, qu'on montre aux autres que nous aussi, on existe, et que par rapport à la lumière, on est peut-être prêt à défendre notre bout de gras. Vous voyez, si je pense à l'exemple du Roi Soleil, parce que c'était de là que me venait cette idée d'exprimer l'appât du roi, les jeux de cour, et je vous donnerai les autres titres après, c'était de dire qu'il y a des prétendants, non pas spécialement au trône, mais des personnes qui veulent se faire voir par le roi pour obtenir ses faveurs, pour obtenir plus de richesses, pour obtenir plus de quelque chose, pour avoir un meilleur statut social, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, ces personnes, elles font en sorte, par des jeux politiques, par des jeux comportementaux plutôt, de se rapprocher du roi. Mais il y a toujours un moment où on se dit, voilà, est-ce que je vais pouvoir aller plus ? Il y a aussi ces fameux plafonds de verre qui nous empêchent de progresser. Il y a aussi le fait de se dire, bah, j'ai envie d'y aller, mais pas tant que ça. Donc j'y vais un peu. Et donc on reste bloqué comme ça dans un certain type de cercle de proximité par rapport au roi. Et les rôles inversés, c'est que bien sûr que c'est le roi qui est au centre de l'attention, mais lui, il n'en a rien à faire de votre existence. Vous n'êtes que dalle. Vous n'êtes rien. À ses yeux, il n'y a que lui qui compte. Il envoie des dizaines comme vous par jour, et en plus, il les mange au petit-déj. C'est pour ça que les rôles sont inversés. Parce que c'est vous qui êtes en train de faire la cour au roi. C'est vous le courtisan ou la courtisane. Ça peut être un mari, ça peut être un pseudo-ami, ça peut être quelqu'un au travail. Et quand vous faites les efforts pour vous rapprocher de ce roi, eh bien en réalité vous vous retrouvez dans une arène où vous êtes en bataille publique à la manière d'un gladiateur, et là on retombe au temps des Romains, pour défendre, encore une fois, votre bout de gras. Votre place. Vous allez vous battre, et vous êtes prêt à sacrifier beaucoup de choses pour obtenir et conserver votre place. Et ça, c'est terrible, parce qu'en réalité, on vient de mettre en place les mécanismes qui font que nous sommes pris au piège parce que nous avons fait trop d'efforts quelque part qui nous empêchent de faire marche arrière à partir d'un moment, tout simplement parce que on touche au but et qu'on a des biais psychologiques, comme le biais de confirmation, qui implique qu'à partir d'un certain degré d'effort, eh bien, on veut absolument confirmer le résultat que l'on a cherché à obtenir. Cette personne a l'air super. J'ai fait des efforts pour que ça allait, parce qu'elle a l'air super. Ben, c'est qu'une fois que je suis devant, forcément elle est super. C'est un petit peu comme si vous mangiez un aliment. Je sais pas si le parallèle sera exceptionnel, mais c'est un petit peu comme si vous alliez manger un aliment, vous vous dites il est exceptionnel. En fait, il n'est pas spécialement bon. Mais vous allez le manger jusqu'au bout, parce que vous avez tellement désiré le manger que vous ne pouvez pas vous permettre de le jeter. Ça vous ferait trop mal au cœur. Eh bien, c'est l'idée du principe actif qui se met en place ici. Et le processus qui nous conduit à être pris au piège dans cet épisode, dans ce nouvel épisode, il est extrêmement important parce qu'on a tendance à toujours parler du pervers narcissique. On a tendance à toujours parler, et il y a tout un tas de bouquins qui existent là-dessus, mais on ne parle pas beaucoup de la responsabilité de celui ou de celle qui se met en action pour se mettre dans ses pattes. On ne parle pas toujours du comportement de la victime. Vous savez que le pervers narcissique sera la première personne à vous dire que c'est la victime de votre comportement, que vous l'insultez. On peut recevoir des textos longs comme un bras, et c'est rien de le dire. C'est une réalité, c'est pas une image, ça peut vraiment être long comme le bras, ça peut faire des milliers de caractères. Je vous parle d'expérience, encore une fois. Il peut y avoir des choses assez brutes de décoffrage dedans. Ça peut piquer un peu, quand même. Mais le pervers narcissique, lui aussi, à sa manière, se positionnera en victime. Comment ? T'as osé me faire ça ? Ah non, 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 non. T'es vraiment trop nul ! C'est pas dit comme ça en général. Quand quelqu'un se moque de vous ouvertement, quand quelqu'un se moque de vous en public, quand quelqu'un... C'est un exemple que je prends, ça peut être le cas de nombreuses personnes, il n'y a pas besoin d'être un pervers narcissique pour ça. Mais quand quelqu'un se moque de vous de manière permanente, en public, devant vos amis, pourquoi pas devant votre copine ou devant votre copain, devant votre famille, pourquoi pas, devant les autres en fait d'une manière générale, qu'est-ce qu'elle essaye de faire ? Faire de l'humour ? Mon cul ? C'est faux. Elle essaye de se valoriser, elle essaye de vous écraser. Ce n'est qu'une partie de la réalité, mais c'est une partie de ce qui se passe. Et si on peut trouver ça drôle, ça peut également être très inconfortable. Dans l'épisode qui était dédié au pervers narcissique, en saison 1, la saison 1, c'était la bestialité, croiser les mondes pour faire face à ses contradictions. C'était ça la raison d'être de la saison 1. Eh bien, je prenais l'exemple d'une femme qui faisait du violon, qui faisait de la musique, etc., etc., qui était petit à petit sous l'emprise de son mari, qui finissait par lui supprimer absolument tous ses atouts en tant que femme et en tant que personne, sa dignité en... l'insultant de manière publique, en faisant des blagues, en la ridiculisant devant ses amis pendant des repas, en lui coupant la parole en permanence, et en l'impliquant dans un système qui fait qu'en plus, c'est elle qui se sentait sotte. Mais arrête de dire ça, tu vois bien que t'es stupide. Oui, mais quand c'est pas dit sur ce ton, mais arrête de dire ça, tu vois bien que c'est stupide. Ça a quel goût dans votre bouche ? Dans le mien, c'est amer. J'arrive plus à rigoler de ce genre de choses, parce qu'en réalité, je conçois l'impact que les mots ont sur les personnes. Vous voyez, si vous êtes du genre à avoir du mal à valoriser qui vous êtes, ce que vous faites en permanence, il est possible que vous disiez à propos de vous-même « Ah, je suis nul. Ah, ça va pas, mais t'es vraiment trop nul. » Vous voyez, j'ai un super ami, un vrai ami, un ami que j'ai depuis plus de 20 ans. Je peux dire ça maintenant. Eh bien, cet ami, il s'insulte. Mais il s'insulte violemment. Je ne vais pas vous employer les termes, les expressions. Mais il manque cruellement de confiance en lui, d'estime de lui-même. Il manque... Sa valeur personnelle est clairement pas élevée. Et il met en place une mécanique de suicide social via la surconsommation d'alcool et à outrance, tiens, pour en rajouter une grosse couche, pendant qu'il est en soirée ou même quand il est au travail, parce qu'en réalité, c'est une manière de dégommer tous les efforts qu'il peut faire à côté, parce que dans le fond, il pense qu'il ne les vaut pas, qu'il n'en vaut pas la peine. Et s'insulter est une confirmation orale, verbalisée, s'auto-insulter est une confirmation orale. C'est physique, c'est une transposition verbale. C'est pas juste des pensées, ça devient la réalité. Votre réalité que vous entendez, celle qui vous définit, elle amène à se positionner comme la victime de vos propos. Et c'est l'idée du titre de cet épisode, être pris au piège. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait partie de notre nouvelle normalité, de notre nouvelle réalité. La réalité n'est qu'une superposition d'informations traitées par notre cerveau, liées à nos expériences, liées à notre perception de l'environnement. Et en fonction de notre patrimoine, je dirais à la fois expérientiel, ce qu'on a vécu, l'expérience des autres, les émotions que l'on ressent, notre sensibilité, etc., etc., tout ce qui nous compose en tant que personne, eh bien, notre réalité, on va la percevoir d'une certaine manière, avec un certain angle. C'est ce qui fait notre perception. Notre perception n'est pas la réalité. C'est notre réalité. C'est pas la même que celle du voisin, c'est pas la même que celle de la voisine. C'est la même que celle de moi-même. Et cette réalité n'est pas la réalité. Parce que c'est mon interprétation qui fait celle-ci. Seulement si j'ai mis en place tout un tas d'actions qui sont censées me conduire à une meilleure réalisation de moi, en me rapprochant d'un pervers narcissique, en me battant pour l'atteindre, en étant aveuglé par la lumière, en étant subjugué par l'aura du roi. Comprendre pervers narcissique encore une fois. Quand je suis tout proche, ce roi va faire exactement ce qu'il veut de moi. Parce que j'ai sacrifié ma liberté d'agir, ma liberté de penser, au profit d'une soumission volontaire à cette personne. Et c'est là que c'est vraiment vicieux et pervers, c'est que le roi va en profiter, le roi ou la reine, hein, c'est homme et femme. Le roi va en profiter parce que désormais, il a pigé que je suis à son service. Et il va s'en servir pour se valoriser. Il va s'en servir pour se sentir bien, socialement, dans sa vie. Il va s'en servir pour vous écraser. Il va s'en servir pour servir son ego. C'est un jeu extrêmement pervers. C'est de là que vient l'expression pervers narcissique. Ça sert l'image de soi, dans un sens qui est néfaste pour tous. Le pervers narcissique souffre. C'est une personne qui ne va pas bien. Mais dont l'immoralité par rapport à la vie en société le conduit à agir d'une manière extrêmement agressive, corrosive sur son environnement. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez regardé cette série Tchernobyl. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup par l'image. J'aime bien faire des images, des correspondances avec ce que je peux regarder dans la nature. Ou par rapport à des expériences visuelles, etc. J'aime bien cette approche. Je trouve ça assez représentatif parce que j'apprécie faire des parallèles entre des choses que je vois et d'autres que je ressens, etc. L'image que ça m'a donnée, c'était comme si une météorite venait s'écraser dans le sol et que cette météorite est radioactive. D'une part, vous avez la météorite qui trône au centre de l'impact, au lieu de l'impact, qui est le pervers narcissique. Vous avez un cratère qui s'est formé et qui symbolise qu'autour, tout a brûlé, tout a été dégommé par la puissance de feu de cette projection très très forte, très très puissante. Et le côté corrosif, c'est parce que ça n'empêche pas des personnes de vouloir aller bien voir ce que c'est, voir qui est cette personne. Et c'est le côté de Tchernobyl. Je vous invite à regarder cette série qui est absolument fantastique. Elle est digne d'un film à suspense où on a l'impression qu'il va y avoir des zombies à tout moment, alors qu'en réalité c'est une sorte de docu-fiction, une sorte de retranscription de ce qui s'est passé quand le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé, et où on voit ces personnes agressées, physiquement agressées par la radioactivité, avec les conséquences que ça peut avoir sur leur corps. Eh bien, l'image que je peux utiliser, c'est cette météorite qui est arrivée à pleine bourre sur la planète Terre. Elle a fait un cratère énorme, il n'y a plus de vie autour, il y a quand même de la vie qui s'en rapproche de temps en temps, mais à chaque fois qu'ils s'en rapprochent un peu trop, finissent par être irradiés et en souffrir parfois très longtemps. Alors, je vous invite à partager vos témoignages de manière orale, pourquoi pas via l'application Anchor de Spotify que j'utilise pour enregistrer le podcast. Je vous invite également à commenter ou partager votre pensée, soit par écrit, soit par oral, bien sur la page Les Doigts dans le Miel, sur mon compte, ou de manière personnelle, plus cachée, je dirais plus respectueuse de votre identité ou de votre, comment dire, dans le respect du fait qu'on sache pas que c'est vous. Je ne communique pas les noms, je ne communique pas tous les témoignages non plus. Il y en a que je peux mettre en avant. Je fais un coucou à MC, à ce moment-là, qui m'a écrit hier pour me partager aussi un lien avec son histoire personnelle et le fait qu'elle ait vécu avec un pervers narcissique pendant des années. Et où il y a eu des cascades d'événements ces derniers temps qui font qu'elle a réussi à se revaloriser, se remettre en avant, à sortir de ce bourbier, mais au prix d'efforts temporels exigeants. Et encore une fois, quand c'est comme ça, on n'est jamais à l'abri que ça recommence, que ça recommence pas. Pourquoi ? Parce que si nos blessures personnelles ne sont pas guéries, si notre self-esteem à l'intérieur ou notre valeurs personnelles ne sont pas tout à fait guéries, eh bien en réalité, ce qui s'est passé une fois risquerait de se produire deux fois. Et en l'occurrence, si vous êtes comme dans mon cas, où ça s'est produit deux fois, il y a fort à parier que ça se produira trois fois. Maintenant, les résultats à venir ne sont pas obligés d'être tous les mêmes. On évolue dans le temps. C'est justement toute l'ambition de Les Doigts dans le Miel, du podcast, à travers ces 300 premiers épisodes, c'est d'exprimer en 6 étapes eh bien un cheminement qui nous permet de nous en sortir convenablement, en allant de l'avant, en soignant quelque part son identité, en fonction eh bien, de caractéristiques de vie. pour se sentir mieux, pour vivre mieux, pour s'épanouir, pour s'émanciper et pour vivre, du coup, plus librement. Dans l'épisode prochain, nous aborderons la révolte. Je vais faire un grand écart entre le fait d'être pris au piège et la révolte. Ce dont je ne vais pas parler, ce sera toute la période où on sera sous l'emprise. Là, sous l'emprise du pervers narcissique, on aura réussi notre mission de nous rapprocher de la lumière et on ne s'est pas rendu compte qu'en réalité, la lumière nous a gardés à elle et où il va y avoir une sorte de blackout. Alors je vous invite à écouter l'épisode de demain, appelé littéralement La Révolte. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.